L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui en Suisse, quel avenir pour l'audiovisuel public à une semaine de la votation qui pourrait bien décider de sa suppression? Eh bien, on fera le point sur les derniers sondages. Pour le Canada, on s'intéressera à la délicate visite du Premier ministre Justin Trudeau en Inde, avec pas mal de controverses. Explication dans un instant. En Afrique, le divorce entre le Gabon et le français Veolia. En Belgique, une réforme qui passe mal, celle de l'aide médicale d'urgence. Et en France, eh bien, on verra pourquoi les traditionnelles festivités autour de Jeanne d'Arc déchaînent la fachosphère. Voici l'actualité francophone, bienvenue à tous. En Suisse, Pierre Anchoffa, vous nous présentez les sœurs Gisine. Chez elles, les médailles d'or sont une affaire de famille. Après Dominique à Sochi il y a 4 ans, eh bien voici Michel qui a remporté l'or à Pyeongchang en combiné alpin.
Oui, la petite sœur a en effet suivi l'exemple de son aîné. Dominique a remporté la descente olympique il y a 4 ans à la barbe des favorites. Et cette année, Michel n'avait pas les faveurs de la cote face à l'américaine Michaela Schifrin, ni même face à sa compatriote Wendy Holdener. Elle les a pourtant devancées dans cette épreuve. Preuve de combiné, 54 ans après les Françaises Marielle et Christine Guachel, c'est donc le tour des sœurs Gisine de réaliser le doublé olympique.
Au Canada, Benoît Audet, vos personnalités de la semaine sont deux patineurs artistiques.
Oui, Tessa Virtue et Scott Moyer, ils ont remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Leur triomphe a toutefois soulevé une controverse en France où on a remis en question l'impartialité d'une juge canadienne. Cette juge a attribué sa plus haute note au couple Virtue-Moyer tout en donnant sa plus basse au couple français formé de Gabriel Papadakis et de Guillaume Cizeron. Cette décision de la juge canadienne n'a probablement pas influencé le résultat final puisque la plus haute et la plus basse note des athlètes ne sont pas comptabilisées dans les résultats finaux.
En Belgique, Nathalie De Vic, un nouvel acteur s'invite sur la scène politique.
Un tout nouveau parti exclusivement voué à la défense de la cause animale. Dir Animal, c'est son nom, dir signifiant animal en flamand. Il s'agit donc d'un parti bilingue à vocation nationale. En Belgique, c'est pas banal. Il souhaite remettre les animaux au centre des préoccupations politiques. Ce n'est pas assez le cas aujourd'hui, estime-t-il, vu les traitements dégradants qui leur sont encore parfois infligés dans les abattoirs, les laboratoires. Il prône aussi un changement de statut juridique pour que les animaux ne soient plus considérés comme des objets, mais comme des êtres sensibles. C'est un mouvement mondial en pleine expansion. Dir Animal est le 19e parti animaliste sur la planète. Chez nos voisins hollandais, il dispose même déjà de sièges au Parlement.
En France, Jérôme Cahuzac et son procès en appel. L'ancien ministre du budget avait dû démissionner sous la présidence de François Hollande pour fraude fiscale. Il a été condamné une première fois à 3 ans de prison ferme. En appel, la même peine de prison a été requise cette semaine, assortie d'une inéligibilité de 5 ans. Son avocat, maître Dupont-Moretti, a supplié la cour de ne pas le renvoyer en prison. C'est un état qu'il ne supporte pas. Et s'il se flingue en prison, a même interroger l'avocat, tout en réfutant l'idée de faire du chantage à la cour. Le jugement final sera rendu le 15 mai prochain. Charlotte Hydrac, pour RFI, vous revenez sur la mort du cinéaste Idrissa Ouédraogo.
Oui, réalisateur burkinabé, auteur d'une quarantaine de films, récompensé dans les plus grands festivals, à Cannes par exemple, avec le grand prix du jury pour Tilaï en 1990, l'histoire d'un fils qui rentre au village, qui découvre que son père a pris sa fiancée pour épouse. Plusieurs de ses films se passent d'ailleurs dans le monde rural, dans la famille, dans l'intime. À 64 ans, Idrissa Ouédraogo était l'un des baobabs du cinéma africain. Il a inspiré toute une génération de réalisateurs.
En Suisse, Pierre Anchoffa, c'est la dernière ligne droite donc dans la campagne de votation sur la suppression ou non de la redevance pour les radios et télévisions publiques.
Oui, le peuple et les cantons trancheront le 4 mars prochain et les deux derniers sondages ont été publiés cette semaine. Ils vont dans le même sens, entre 60 et 65% de non à l'initiative dite Nobilag, du nom de la société chargée de percevoir cette redevance. Une initiative populaire issue des jeunesses, des radicaux et de l'UDC qui vise à supprimer tout financement public pour l'audiovisuel en Suisse.
Ça veut donc dire que le vent a tourné dans l'opinion ?
Oui, la campagne menée par les adversaires de l'initiative semble porter la conviction que sans redevance, le service public ne pourrait plus fournir une offre équivalente dans les différentes régions linguistiques et partagées par près de trois quarts des sondés. Autres arguments largement majoritaires, la crainte d'une baisse de la qualité est celle de voir l'audiovisuel dépendre davantage de fonds privés. En revanche, une majorité estime que le service public, en l'occurrence la SSR, doit se montrer plus parcimonieuse et se soumettre à des mesures d'économie, mais cela ne justifierait donc pas de révolutionner le système en supprimant la redevance.
Pierre-Henri, vous mentionnez les quatre langues nationales. Pour la votation, est-ce qu'on peut s'attendre à des différences régionales ?
Oui, l'incertitude règne en Suisse italienne, c'est la seule région où le oui progresse dans les sondages. Un paradoxe puisque le Tessin a besoin de la solidarité confédérale de la redevance. En clair, les alémaniques payent pour offrir deux chaînes de TV aux italophones. Les analystes y voient d'abord l'expression d'un vote protestataire, anti-système, un système dont le service public ferait aussi partie. La dernière semaine de campagne s'annonce donc particulièrement vive au sud des Alpes.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a passé la semaine en Inde. À l'origine, il devait s'agir d'un voyage plutôt banal, consacré aux seuls dossiers économiques. Mais Benoît Audet, la controverse a suivi le Premier ministre tout au long de cette visite.
Oui, ce n'est certainement pas un voyage de tout repos pour Justin Trudeau. Il a d'abord été critiqué pour avoir porté des costumes traditionnels indiens à chacune de ses haltes en Inde. Certains trouvent qu'il en fait un peu trop, mais la controverse la plus explosive a trait à la présence d'un extrémiste à une réception à Mumbai en compagnie du premier ministre et de son entourage. Imaginez, cet homme a été condamné au Canada pour avoir tenté d'assassiner un ministre indien en visite dans l'île de Vancouver en 1986. Une autre invitation, cette fois prévue à l'ambassade canadienne à New Delhi, a été annulée, mais trop tard, le mal était déjà fait.
Et donc cette affaire a placé le Premier ministre sur la défensive. Comment a-t-il réagi?
Il a reconnu que cette invitation était une erreur. On l'écoute.
Évidemment, la personne en question n'aurait jamais dû être invitée. Et dès qu'on a su ce qui se passait, on a retiré l'invitation. Le député responsable d'avoir inclus cette personne en assume l'entière responsabilité.
Le bureau du premier ministre tente de comprendre ce qui s'est passé. Toute la semaine, avant même que cette controverse n'éclate, Justin Trudeau avait dû rassurer les Indiens au sujet du mouvement séparatiste Sikh en plaidant en faveur d'une Inde unie.
Charlotte Hydrac, dans l'actualité francophone africaine, cette semaine, le divorce entre le Gabon et le groupe français Veolia.
Oui, une rupture brutale avec la fin du contrat de distribution entre l'État gabonais et la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, une filiale de Veolia. Alors pourquoi? Explication du ministre gabonais de l'eau et de l'énergie.
Il y a eu une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers sur l'ensemble du territoire. Nous avons fait des hausses tarifaires. On se rend compte également que tout l'argent n'a pas été utilisé pour les investissements. Maintenant, nous étions en pleine négociation pour passer d'un contrat de concession à un contrat d'affermage. Vous savez, quand vous avez des partenaires qui vous disent qu'ils sont capables de vous couper l'eau, l'électricité et qui vous menacent, nous avons pris cela vraiment très au sérieux.
En conséquence, l'entreprise a été réquisitionnée, des forces de l'ordre ont investi le siège de la société à Libreville. Inacceptable pour Veolia, elle ment le pas de Sécheval et le secrétaire général du géant français.
Il s'agit d'un acte gravissime, d'expropriation illégale, et donc nous avons été extrêmement surpris de la violence et du caractère très soudain de cette action menée de spoliation la semaine dernière. On est au Gabon depuis 1997. Vraiment, nous regrettons pour la population gabonaise les conséquences de ce coup de force qui témoigne d'un climat catastrophique pour les investissements étrangers.
Libreville dit attendre maintenant des partenariats gagnant-gagnant. Le collectif d'ONG Tournons la Page, lui, se méfie d'une opération communication de l'État gabonais et espère surtout que cela ne nuira pas aux usagers.
Nathalie Devic, en Belgique, le gouvernement a créé la polémique cette semaine en voulant réformer l'aide médicale d'urgence.
particulièrement les soins médicaux accordés aux migrants en situation irrégulière chez nous. Il y aurait trop d'abus dans les soins qui leur sont prodigués, des soins qui n'auraient pas de caractère vital, qui ne seraient pas justifiés et que l'État déplore de voir malgré tout financer. La réforme prévoit dès lors l'intervention de médecins conseils chargés de vérifier au cas par cas la recevabilité médicale de l'aide, sous peine de sanctions pour les centres d'aide sociale qui abuseraient. Pour le directeur de Médecins du Monde, Pierre Verberen, c'est une aberration.
On est sur une vingtaine de cas par an, c'est-à-dire vraiment quasiment rien, mal documenté, donc mal examiné, alors que nos services voient des abus dans l'autre sens, c'est-à-dire des personnes qui sont privées de soins dans des situations compliquées par centaines par an. Donc on est dans un système où quelques petits abus, et il y en a toujours dans tous les systèmes malheureusement, justifient finalement qu'on tire avec un bazooka sur une mouche, mais alors on éclabousse effectivement des centaines de personnes qui vont se retrouver privées de soins alors qu'elles en ont grandement besoin.
Et de démonter les arguments de certains politiques comme quoi la Belgique favoriserait par son laxisme un tourisme médical. En réalité, seuls 6% des migrants présenteraient un problème de santé avant d'arriver sur notre sol. N'empêche, prévient pour sa part le Conseil de l'Ordre des médecins, les soins dispensés aux sans-papiers, soient-ils dans l'illégalité, doivent leur offrir une vie conforme à la dignité humaine. Quant aux partis de l'opposition, ils dénoncent un projet populiste et demandent, eux, une réforme qui ne renforce pas le caractère bureaucratique, mais simplifie au contraire les démarches pour faciliter l'accès aux soins, comme le préconisait déjà il y a 2 ans un centre d'expertise fédéral indépendant.
En France, cette polémique à propos du choix de la jeune fille qui va incarner Jeanne d'Arc toute l'année dans la ville d'Orléans. Il faut d'abord dire que la ville d'Orléans célèbre chaque année celle qui a bouté les Anglais hors de France à partir de cette ville. C'était en 1424. Et bien cette fois, la jeune fille qui a été choisie parmi une douzaine de candidates s'appelle Mathilde Aidé-Gamassou. C'est une lycéenne, elle a 17 ans, elle habite Orléans et elle est métisse. Ce qui ne plaît pas du tout à la fachosphère qui s'est aussitôt déchaînée sur les réseaux sociaux en postant des commentaires haineux et racistes. L'association Orléans Jeanne d'Arc, qui a fait le choix de cette candidate, estime que Mathilde Aidé-Gamassou répond à tous les critères. La présidente de l'association, Bénédicte Baragne, se dit écœurée.
Je regrette de tout cœur ce qui se passe parce que c'est une jeune fille qui a été choisie pour les 4 qualités qu'elle avait pour remplir Jeanne d'Arc. C'était notre priorité. Et par contre, quelle que soit la personne, je trouve qu'il est anormal de manquer de respect et d'insulter d'autant plus une jeune fille. C'est honteux. J'ai pas envie de rentrer dans la polémique. Voilà, parce que plus on va rentrer, plus on va leur faire plaisir, plus on va alimenter. Et pour moi, il n'y a pas de polémique. La jeune fille est bien. Elle est française, elle est catholique, elle est scolarisée à Orléans. Elle donne du temps aux autres. Point. Le reste, ça alimente leur salive. Eh bien, très bien, mais pas la mienne.
Une métisse donc pour incarner Jeanne d'Arc, et ni le maire d'Orléans ni la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes ne voient où est le problème. La ministre dit d'ailleurs ne pas vouloir laisser les identitaires s'accaparer l'histoire de France en général, ni Jeanne d'Arc en particulier, quitte s'il le faut aller en justice. Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain journal francophone, la semaine prochaine, même endroit, même heure.